Prendre son affaire en main, c'est passer par des étapes différentes, des étapes qui vont évoluer avec le temps. Et parfois, on s'en rend pas toujours compte, notamment la première phase qui est celle de l'observation. On n'a pas toujours conscience de cette phase-là parce que bah, c'est celle souvent où on démarre, on découvre ce projet et notre lignée vient nous aider à mettre en place les premières actions. Donc nous, on n'est pas trop conscient de ce qui se passe, mais on est quand même dans une phase d'observation et de mise en place de notre activité. La lignée vient faire les actions, elle peut aussi nous accompagner dans le fait de... je sais pas, de mettre en place un premier client, d'aller faire la remise du kit, monter un programme avec un client. Tout ça, ben, on nous le montre, mais on n'a pas toujours conscience de ça. Ensuite, on a la deuxième étape qui est celle de faire. Là, je vais passer à l'action. Je vais mettre en place ce qu'on m'a montré, ce que j'ai observé, et je vais le faire parce que ben, je commence à prendre en main mon affaire. Par exemple, je vais présenter mon projet, je vais présenter ma gamme de produits, je vais mettre en place un client, je vais l'accompagner. Ensuite, on a l'étape de faire-faire, c'est celle de déléguer, et c'est d'accompagner cette délégation, c'est d'apprendre aux autres ce que je sais faire moi-même. Donc, comme le dit Eric Worre dans le livre GoPro, il parle, lui, de trois types de personnes qui s'inscrivent dans cette activité. Il y a trois approches différentes. Et dans cette salle, mais il y a trois types de personnes. Il y a les poseurs, ceux qui... ont dans leur tête une liste de 5 à 10 personnes, c'est sûr, ce sont eux, ils vont tout casser. C'est sûr, leur activité, tout va péter grâce à ces 5 à 10 personnes-là. Ça, ce sont les poseurs. Ensuite, il y a les amateurs. On les aime bien, ils sont là tout le temps, mais ils sont totalement irréguliers, en dents de scie. À fond, ils disparaissent. À fond, ils disparaissent. Puis ils reviennent, ils sont à fond, puis ils redisparaissent. Irrégularité totale. Mais ils sont là, on les aime bien, ils nous aiment bien, et ça, ce sont les amateurs. Parmi vous, il y a des amateurs. Et il y a des professionnels. Les professionnels, c'est ceux qui ont décidé que cette affaire, c'était une entreprise dès leur démarrage. Ce n'est pas un petit truc où on vend des bois-boîtes à des gens qui vont manger de la poupoudre. Ils sont en train de construire un business, une entreprise, et ils vont la gérer comme telle. Donc... souvent, on a dans la salle des gens qui travaillent pour Enel. Mais moi, je ne travaille pas pour Enel. Hein. Je construis mon entreprise. Ce qui est génial, c'est que moi, je ne travaille pas pour l'entreprise de Michel Labazor. Je construis une entreprise avec Michel Labazor. C'est beaucoup mieux. Je ne travaille pas pour Sylvain Bonnet. Je construis mon entreprise avec Sylvain Bonnet. La nuance est très, très importante. D'accord ? Parce que... voilà, c'est la notion de « j'ai mon entreprise entre les mains ». C'est d'autant plus important quand on change de statut, qu'on passe du VDI à l'auto-entreprise ou à la société. Mais c'est primordial de prendre en main son affaire dès le démarrage, même quand on est VDI, et qu'on estime que ce n'est pas encore tout à fait un vrai business. Alors, construire son entreprise, je vais vous donner quelques petites notions, quelques petits conseils qui ne sont pas si petits que ça pour une meilleure gestion et une meilleure organisation. Premier point, c'est dans la mesure du possible, de passer sur du numérique, voilà, pour être plus efficace. Alors, si vous n'êtes pas du tout numérique, si un smartphone, ça vous file des boutons, ne fermez pas la porte et allez-y progressivement. On va augmenter les compétences tranquillement. Alors, construire son entreprise, on va voir ça en trois points. Des outils, une gestion, une attitude. Des outils. Les outils, il y en a pas mal. Le premier outil, c'est pas une banque, c'est un compte bancaire. Voilà. Le compte bancaire, idéalement, à débit différé et un compte dédié à votre activité. D'accord ? Ne mettez pas ça sur le compte courant parce que vous n'allez pas voir ce qui rentre et pas faire la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Vous allez vous rendre compte de ce qui sort. Vous allez souvent voir les moins. Parce que c'est ce qu'on voit en général, mais vous n'allez pas avoir conscience de ce qui rentre, voilà, des bénéfices que vous faites. Prévoyez d'aller ouvrir un compte destiné à ça. Pas besoin d'ouvrir un compte pro, hein, vous prenez un compte courant basique, parce que les comptes pro, ils sont souvent plus taxés que les autres. Et donc un compte courant traditionnel, ça vous permettra de faire les entrées et les sorties et d'avoir une meilleure vue de vraiment ce qui rentre et ce qui sort. L'avantage d'aller ouvrir un compte en banque, c'est d'avoir déjà un premier contact avec son conseiller et de lui expliquer ce qu'est notre activité. C'est une bonne façon de prendre son affaire en main que de se préparer à présenter son affaire en 10-15 minutes à son conseiller bancaire pour lui dire « bon ben voilà, je démarre un nouveau projet et j'ai besoin d'ouvrir un compte, mais il faut que je vous en parle un petit peu plus ». Voilà, une première PO tête à tête, c'est idéal. L'avantage d'avoir un débit différé, c'est de proposer des facilités de paiement pour vos clients. Voilà, puisque tout sera déduit le mois d'après, vous pouvez proposer à votre client un paiement en deux fois facilement sans que vous ça soit impactant sur votre trésorerie. Par contre, ça nécessite de gérer, de faire ses comptes, de pas dépenser plus que ce qu'il y a. Alors, ensuite, autre point, c'est l'agenda. Donc là, je vous ai mis un agenda papier, mais c'est un peu de la provocation, d'accord ? Parce que bien évidemment, je vais vous conseiller un agenda numérique. Sur votre téléphone ou autre, vous pouvez avoir des agendas. Idéalement, partagez-le avec votre conjoint ou votre conjointe, votre femme ou votre mari. Parce que je sais que nous, on ne pourrait pas travailler sans ça. On a des agendas qui sont synchronisés les uns les autres, et avec Nico, on sait qui va chercher Léo à la sortie de l'école. Voilà. Le premier qui prend le créneau, bah, l'autre il va chercher Léo. Voilà, c'est un peu ça. On s'organise un peu mieux que ça, mais voilà, ça permet de savoir où on en est, à quelle heure on rentre l'un et l'autre. Voilà, c'est beaucoup plus simple et c'est une meilleure organisation. Ensuite, cahier de notes et enregistreur. Quand vous êtes dans une formation comme celle-ci, il y a beaucoup d'informations qui sont données. Donc, le cahier de notes et l'enregistreur, c'est primordial parce qu'on ne va pas pouvoir tout retenir du week-end. Pour retravailler dessus plus tard, c'est important. L'enregistreur, prenez l'habitude de noter dès que vous avez fini l'enregistrement ce dont il s'agit. Moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Et quand on veut réécouter des choses qu'on a entendues, bah, pour faire la recherche, enregistrement 178, ça ne me parle pas trop, quoi. Alors que si on note « conseil en nutrition Mélanie Deauville », c'est déjà un petit peu plus précis, quoi. Donc faites une belle base de données. Ensuite, donc, bah, y a la voiture, bien évidemment. Tout ça, je vous le dis, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça demain matin. Hein, d'accord ? Ce sont des choses idéales à avoir, des bons investissements, mais vous n'allez pas pouvoir avoir tout de suite. D'accord ? N'allez pas chez le concessionnaire demain pour leur dire « il me faut une voiture ». Vous pouvez l'essayer, par contre. Ça, c'est hyper important de vous projeter dans ce que vous voulez avoir. Donc, une voiture, c'est un vaisseau. C'est primordial pour bien se déplacer. Ensuite, un ordinateur. Ça, c'est pratique, évidemment. Ça évite d'être à la banque et de vouloir faire sa présentation, de sortir le truc et de lui dire « bon, bah, il va nous falloir un petit quart d'heure. On va meubler pendant ce temps-là pour le temps qu'il se mette en route. » Voilà, donc un ordinateur efficace, c'est important. Qui soit pas trop lent. C'est pareil, ça, c'est pas nécessaire demain matin, d'accord ? Ce sont des investissements sur du plus long terme. Et ensuite, un des, pour moi, les plus importants investissements, c'est le smartphone. Le smartphone, il va vous faire l'agenda, il va vous permettre de gérer vos comptes, il va vous permettre de prendre des notes, d'enregistrer, il vous permet pas de conduire. Mais vous pouvez l'utiliser en voiture, si vous voulez. Mais en tout cas, nous, on a toujours un budget smartphone important parce que c'est un bon investissement. C'est un outil tout en un et c'est notre outil de travail privilégié. Nous, Léo, il ne joue pas avec notre téléphone. C'est très, très, très rare qu'il ait notre téléphone entre les mains parce que ce n'est pas un jeu. C'est notre outil de travail. Donc, le smartphone, c'est hyper important. Autre point que je n'ai pas noté, c'est le vision board. Le vision board, c'est un outil indispensable à tout entrepreneur qui veut garder sa motivation. Le vision board, c'est le tableau de rêve, le cahier de rêve, le cahier d'objectifs. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais quelque chose où vous avez d'afficher, où vous pouvez retrouver de manière très facile des choses qui vous motivent. Parce que parfois, la motivation, bah, ce n'est pas qu'elle s'en va, mais elle disparaît un peu, puis elle revient. Hop, c'est comme ça. Et l'idée, c'est d'aller rechercher cette motivation en se replongeant dans ses objectifs. Donc, le vision board, c'est primordial pour un entrepreneur qui se respecte. Et vous respectez. On est d'accord ? Autre point, prendre conscience qu'il y a une différence entre avoir et être. D'accord ? On peut avoir plein de choses, mais on peut ne pas être un entrepreneur. Tout va être dans l'attitude. Et ça, on va le voir juste après. Entre-temps, on va voir que être un entrepreneur, c'est aussi gérer son entreprise. Et gérer son entreprise, c'est mettre le nez dans des petites choses qu'on n'aime pas forcément. La gestion, la compta, voilà, toutes ces petites choses comme ça. Et la compta, c'est un bien grand mot. Hein. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas bien compliqué. L'idée, c'est de prendre des bons réflexes dès le démarrage, même si on n'aime pas la comptabilité, la gestion. Vous savez pourquoi, moi, je conseille ça? C'est que ce que je disais la semaine dernière, ça a fait rire, mais c'est très sérieux quand je dis ça. C'est que moi, si un jour, il arrivait quelque chose à Nico, je ne veux pas avoir dit toute ma vie, c'est mon mari qui gère. Parce que le jour où mon mari, il n'est plus là, ben moi, je veux savoir gérer quand même. D'accord ? Donc, c'est hyper important d'être un chef d'entreprise accompli, chef d'entreprise complet. Donc, c'est quelqu'un qui sait gérer aussi sa comptabilité. Autre point, c'est que quelqu'un qui ne sait pas gérer avec 1000 euros, alors ça, je sais que ça fait grincer des dents quand je dis ça, mais quelqu'un qui ne sait pas gérer avec 1000 euros ne saura pas gérer avec 5000, ne saura pas gérer avec 10 000, ne saura pas gérer avec 20 000. Alors, quand on n'a pas 10 000 ou 20 000 euros, on se dit que si, on saura gérer, mais en général, on ne sait pas. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause, pour avoir testé. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a 10 000 euros qu'on va mieux gérer que quand on en avait 1 000 ou 2 000. D'accord ? Ce sont des bons réflexes à prendre et à prendre dès le démarrage. Alors, tenir une compta. Donc, tenir une compta, c'est juste avoir un petit tableau avec les entrées et les sorties, les plus et les moins. Ce n'est pas bien compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir un BTS compta pour faire ça. D'accord ? Donc, les entrées, ce sont vos marges et vos commissions. Les marges, même si votre client il vous paye en espèces, ça compte dans ce que vous récupérez. Parce que des fois, le client il va nous donner, je ne sais pas, 200 euros parce qu'on lui a vendu 200 euros de produits. On récupère ça en espèces, puis on oublie de le noter dans le tableau parce que c'est dépensé facilement dans le quotidien, quoi. On va faire les courses ou subitement, on a besoin d'une paire de chaussures ou d'un pantalon ou d'une belle veste ou d'un sac à main ou je ne sais quoi. Mais il faut quand même penser à les ajouter dans les petits plus qui rentrent sur le compte, même si c'est déjà dépensé. C'est quand même rentré. Les commissions, donner un RIB qui corresponde au compte en banque dédié à l'activité. Le service plus, petit focus sur le service plus, c'est un bon moyen de s'assurer des rentrées régulières. Voilà, le service plus, c'est un abonnement. Si on a nos clients qui sont sur ce service plus, on peut se projeter sur une rentrée plus régulière en trésorerie par rapport à notre vente de produits. Ensuite, les sorties. Les sorties, ce que vous allez pouvoir passer sur ce compte, c'est l'achat des produits biotisanés, bien évidemment, pour vos clients. Votre conso perso, dans un premier temps, je vous inviterai à la passer sur votre compte perso. Parce que c'est de l'alimentation. C'est comme si vous alliez au supermarché. Vous allez en plus vous rendre un peu mieux compte du transfert de budget que vous allez faire dans sur votre caddie à la maison. Ensuite, vous allez pouvoir passer les frais de téléphone, tout ce qui est lié à la formation, l'achat que vous allez faire à la boutique, ça, vous pouvez utiliser le compte destiné à votre activité. Voilà, vous pouvez passer plein de choses. Ce qu'il faut, c'est chercher l'équilibre, d'accord ? Pas dépenser plus, et puis chercher à équilibrer tout ça. Travailler sur le plaisir à retardement. Ce n'est pas parce qu'on a une envie soudaine d'une paire de chaussures ou de je ne sais quoi, qu'il faut l'avoir tout de suite. Moi, pendant longtemps, je m'étais fixé l'objectif d'avoir une mini. Mais je l'ai attendue, ma mini. Entre-temps, j'ai eu une Fiat 500 parce que le budget me permettait pas, que je voulais allouer à ma voiture ne me permettait pas d'aller vers la mini. Donc, j'ai eu une Fiat 500 que j'ai gravement kiffée. Elle était trop bien. Et après, j'ai eu ma mini. Mais quand j'ai eu ma mini, je l'ai attendue genre 5 ou 6 ans. Et ça ne m'a pas tuée, quoi. Donc, le plaisir à retardement, c'est primordial. La récompense, en fait, en est d'autant plus forte. Voilà, de se dire, celle-là, je l'ai méritée quand même. Ensuite, il y a la notion d'investir et de dépenser. Dans l'esprit, des fois, la limite est mince. Est-ce que j'investis ou est-ce que je dépense ? Et des fois, on se trompe. La formation,
les livres, les week-ends que vous, auxquels vous assistez, comme celui-ci, c'est un investissement sur vous. Vous n'investissez pas pour faire plaisir à votre lignée. Vous n'investissez pas pour la IPME. Vous investissez pour vous, pour votre développement personnel, pour le développement de votre entreprise. Et par exemple, si vous avez un petit peu de trésorerie liée à votre activité, n'hésitez pas à prendre quelques bouquins d'avance pour votre équipe. Quelqu'un qui a un peu de trésor, moi je lui conseillerais, nous on a fonctionné comme ça, et même si on n'avait pas de trésor, surtout quand on n'avait pas de trésorerie, on a toujours eu un petit stock de livres, je dis un stock, mais ce n'est pas vraiment un stock parce que ça part vite, qu'on mettait à disposition de notre équipe. C'est facile quand on est en rendez-vous, après une présentation ou après un RBE, d'être chez un nouveau et de lui conseiller un livre. Parce que comme dit Nico, un réseau qui lit, c'est un réseau qui grandit. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire de votre réseau, mais en général, on veut qu'il grandisse. Et donc, pour accompagner le fait qu'il grandisse et qu'il évolue, il faut que les gens qui le constituent évoluent aussi. Et ça passe obligatoirement par la lecture. Donc, munissez-vous de quelques livres de base. Moi, je ne peux que vous conseiller, surtout si vous êtes nouveau, mais si vous avez des nouveaux dans votre groupe qui démarrent pas mal, prenez le pack pour les nouveaux avec GoPro, Miracle Morning. Ensuite, votre conso perso, c'est aussi un investissement pour votre santé. Ce n'est pas une dépense pour dire « je dépense pour manger ». C'est un investissement pour votre santé. C'est aussi un transfert de budget, mais ce sont aussi des PV. D'accord ? Quand vous consommez, vous générez des PV. C'est une sorte de consommation rémunérée. Donc, consommez, quoi. Voilà. Non, mais en plus, c'est bon pour vous. Pensez à votre déclaration de marge, hein, je ne vais pas entrer dans le sujet plus longuement, mais la déclaration de marge, c'est primordial, ça évite de payer des charges sur votre conso perso. C'est utile. Travaillez aussi sur la notion de taux horaire. Le taux horaire, parfois, j'entends des gens qui sont insatisfaits ou déçus de gagner 200 ou 300 euros dans le mois avec l'activité. Je comprends. On peut être déçu, frustré, parce que ce n'est pas ce vers quoi on tend. On veut aller vers plus. Mais regardons un peu le travail qui a été fait sur le terrain. Combien de temps vous avez investi pour avoir ce retour de 200 ou 300 euros? Mettons, vous gagnez 200 euros, vous investissez 4 heures, bah, le taux horaire, il n'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Donc, il faut parfois revenir un peu les pieds sur terre, parce que souvent, de la scène, c'est sûr, on parle de sommes importantes, mais on y va progressivement aussi, d'accord ? On ne les gagne pas comme ça, c'est 1 000 ou 2 000 ou 3 000 ou 5 000 ou 10 000 euros. Voilà, c'est du temps investi. Et donc, travailler sur la notion de taux horaire, ça, c'est un bon point. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà essayé de demander à votre employeur une augmentation de 200 euros ? Même en travaillant 2 heures de plus. Je ne suis pas sûre que ça passe tout à fait comme une lettre à la poste, comme on dit. Donc, le temps de trajet. Parfois, moi, il y a des gens, dans cette notion de taux horaire, ils comptent le temps de trajet. Mais non, quand vous allez au travail, vous n'êtes pas rémunéré sur votre temps de trajet. Alors, c'est sûr qu'on a parfois des déplacements à faire pour aller de chez nous au rendez-vous où on doit faire la PO ou la présentation. Ce temps de trajet, vous pouvez l'investir autrement. D'accord ? C'est un temps où vous pouvez passer un coup de fil à votre lignée, passer un coup de fil à des clients, écouter un CD, ne lisez pas. Ce n'est pas le moment, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Écouter des CD, c'est vraiment le meilleur moment, je trouve. Moi, ça me met dans un bon état d'esprit. C'est toujours mieux que d'écouter la radio, hein, honnêtement. Et puis, dernier point sur cette notion de création d'entreprise, c'est une attitude. Et comme on dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Un des points primordiaux de l'attitude, c'est l'attitude vestimentaire. Alors ça, je sais que c'est un sujet sensible qui parfois peut faire grincer des dents parce qu'on n'a pas tous la même notion du beau et du chic. D'accord ? Donc, des fois, on ne se comprend pas toujours. Mais quelques principes. Pendant longtemps, le code pour ces messieurs, ça a été le costard-cravate. Aujourd'hui, les codes évoluent. Voilà, les mentalités évoluent un peu. Le monde change, comme on dit. et les lignes bougent un peu. Donc aujourd'hui, voilà, on peut venir, on voit de plus en plus de gens qui viennent en costard avec des baskets, qui se décontractent un petit peu, c'est des costumes qui sont dépareillés, mais ça reste chic, d'accord ? Attention toutefois à quelques petites choses. Le costard avec les baskets Kalenji de Decathlon, ça passe pas. Il y a des trucs comme ça, c'est pas possible. D'accord ? Donc, on fait attention quand même. La chemise ouverte jusqu'ici et la grosse chaîne en or, bon, c'est un style, mais peut-être pas sur scène. D'accord ? Donc, on fait attention à ce genre de choses. Ou pour ces dames, tout ce qui est tout à fait en transparence, c'est assez sensible aussi. D'accord ? Le court, on fait attention au niveau du court où ça s'arrête. Voilà, donc il y a des choses. Attention à la limite entre le chic décontracté et le débraillé. D'accord ? On fait attention à ça. Autre point, l'attitude, c'est aussi dans notre relation aux autres. On parle beaucoup d'entreprise 3.0, du fait d'extraire des contacts du numérique pour les remettre en lien avec de l'humain. Sauf qu'il faut que l'humain soit sympa. Parce que si vous n'êtes pas sympa, ça ne va pas mieux fonctionner qu'à l'ancienne, hein, que dans le fait de côtoyer des gens dans la rue, quoi. Donc, il faut faire attention à des notions toutes simples, de relations de proximité, mais pas trop non plus. Hein, les gens, ce n'est pas nos potes, mais, même si on a une bonne relation sur Internet. Voilà, a priori, on s'entend bien, mais on garde quand même l'attitude. Des notions de bienveillance. Pas parce que le contact matche moins que ce qu'on avait pensé, bah, qu'il faut l'envoyer bouler, j'ai envie de dire. Et attention à la sympathie, soyez plutôt dans l'empathie, parce que la sympathie, on prend tout pour soi, enfin, la personne elle est en difficulté, et on mange cette difficulté, on la garde pour soi. Alors que l'empathie, c'est d'entendre et de proposer des solutions quelque part. Et nous, c'est notre métier, c'est d'entendre les problématiques et d'arriver avec une solution à offrir. Je fais un petit focus sur le terrain. Le danger du 3.0, c'est de se dire, je prospecte sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du terrain, la prospection sur les réseaux sociaux. D'accord ? C'est comme si vous travailliez votre liste de noms. Le terrain, ça restera toujours la présentation avec un échange avec quelqu'un. Et attention, tête à tête, travaillez plus sur du groupé, d'accord ? Notre activité, elle est faite pour être partagée en groupe. On est moins quand on est en tête à tête, on est plus dans une relation de pas de confrontation, mais il y a quand même quelqu'un qui doit vendre quelque chose à l'autre, d'accord ? Que quand on est en groupe, on est plus dans la présentation. On propose quelque chose et après on voit qui est intéressé parmi tous ces gens. Donc privilégiez tout ce qui est action de groupe, de salon. L'attitude, c'est dans sa relation aux autres, c'est aussi respecter son affaire. Alors respecter son affaire, qu'est-ce que c'est ? Ben, déjà, c'est avoir conscience qu'elle n'est pas responsable de toutes vos problématiques. On a quand même tendance, parfois, à lui rejeter beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont en difficulté financière, qui démarrent l'activité, mais leurs difficultés financières, elles étaient là avant l'activité. D'accord ? Il y a des gens qui n'ont pas de temps, et ce n'est pas l'activité qui leur prend du temps, ils n'en avaient déjà pas avant. D'accord ? Donc, on respecte son affaire parce qu'elle n'est pas responsable de toutes nos problématiques. Nos problématiques, ben, elles étaient là avant. D'accord ? Il faut justement utiliser l'activité pour être un rebond et permettre d'aller vers autre chose. Ensuite, c'est savoir plaider sa cause quand c'est nécessaire. Défendre son métier, c'est pas cartonner quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'on fait ou qui ne comprend pas ce qu'on fait. D'accord ? C'est pas lui dire que tu n'as rien compris, quoi. C'est de lui laisser du temps. Mais c'est aussi ne pas se laisser influencer par quelqu'un qui vous dit qu'il n'aime pas ce qu'on fait ou qui ne comprend pas ce qu'on fait. J'ai un exemple. Mon père, pendant longtemps, je l'ai entendu dire « Les comptables, c'est des voleurs. Les comptables, c'est des voleurs. » Les comptables, c'est des voleurs. Ou c'était pas voleur, c'est pas ça. Les comptables, c'est des magouilleurs. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fichais totalement de ce qu'ils me disaient. Jusqu'au jour où j'ai fait un BTS compta. Je suis devenue comptable. Ça m'a un petit peu plus dérangée. Et du coup, un jour, je lui ai dit, lui, il est carrossier peintre. C'est un métier de passion. Un métier qui lui abîme la santé, mais un métier passion et qui fait avec voilà, amour, passion. Voilà. Et un jour, je lui ai dit, ben ouais, mais les carrossiers peintres, c'est des voleurs. Ils en mettent toujours plus que ce qu'il faut. Il y a un moment, il faut montrer les crocs gentiment. Voilà. Ça, c'est pas cartonner, c'est juste lui dire, écoute, toi, tu as un a priori sur le métier, mais moi, j'en peux en avoir un aussi sur le tien. Même si je sais que c'est pas vrai. Même si je sais qu'il y en a qui le font, mais il y a des carrossiers peintres qui ne sont pas des magouilleurs, qui ne sont pas des voleurs et qui font ça avec passion. Mais en gros, pour l'activité, c'est pareil. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre et qui vont vous dire c'est bizarre, c'est ci, c'est ça. Bien, il faut savoir leur montrer que leur métier aussi, on peut trouver des a priori là-dessus. Les profs, ils sont tout le temps en vacances. Non, mais je vous donne... Moi, je ne pense pas ça. Mais les gens qui ont des a priori, je trouve un autre exemple que des profs. Vous avez un autre métier, là, en tête? Les commerciaux. Bah, les commerciaux, c'est un peu des voleurs aussi, parce qu'ils nous vendent des trucs dont on n'a pas besoin. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Ça peut exister, mais ce n'est pas une généralité. Ce n'est pas ce qui définit la profession. D'accord ? Donc, sachez défendre votre activité gentiment, sans cartonner, avec bienveillance. Ça va, ça ? Ensuite, c'est rester enseignable. Qu'est-ce que c'est que rester enseignable ? Eh bien, c'est de continuer à apprendre, même si on pense avoir tout compris. C'est de continuer à apprendre dans une formation, même si vous avez sur scène quelqu'un qui a une qualification inférieure à la vôtre. Même si c'est quelqu'un qui est sur scène que vous avez déjà entendu, qui a déjà fait une intervention que vous avez déjà entendue. Parce que l'intervention, elle peut être meilleure, parce qu'elle peut être enrichie, parce qu'elle peut être amenée d'une autre façon. Rester enseignable, c'est oublier le « je sais ». Écoutez-vous parler quand votre lignée vous donne des conseils. Si vous commencez à dire « t'inquiète, je sais », « oui, non, mais je sais », « oui, oui, je sais », ouh. Moi, ça, quand quelqu'un me dit « t'inquiète, je sais », ouï, 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 danger. Danger parce qu'on n'est plus dans le fait d'apprendre et d'écouter, même si on pense que notre lignée va nous donner un conseil qu'elle nous a déjà donné 20 fois, bah, la question, c'est de se dire « pourquoi elle me le donne 20 fois, ce conseil ?» Pourquoi elle me le répète encore ? J'ai compris. Mais peut-être que j'applique pas, ou peut-être pas bien. D'accord ? Donc, écoutez-vous quand vous avez ce réflexe de dire « t'inquiète, je sais ». Là, dites-vous, ça craint. Donc, oui, je sais. Comme je vous dis, t'inquiète. Je vous disais, il y a des signes qui ne trompent pas. Si vous avez l'attitude d'un chef d'entreprise, l'attitude d'un leader, eh bien, vous deviendrez ça. D'accord ? Donc, visualisez peut-être le nom de la société que vous voulez monter. Voilà, pour l'instant, vous êtes en statut de VDI, mais quel nom vous donnerez à votre société ? Marc et Karine, ils ont fait ça, eux. Ils se sont projetés dans le nom de la société qu'ils allaient donner. Ils se sont projetés sur le logo qu'ils allaient créer pour leur société. Bah, quelque part, ça nous projette vers ça, ça donne l'élan vers le fait de construire réellement son entreprise. Et visualiser votre entreprise dans 2, 5 ou 10 ans. Nous, dans notre tête, c'est clair depuis toujours. On va construire une entreprise sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Vous voyez ça ? Ce sera notre entreprise. Je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, mais ça va se faire, je vous le dis. Hein. On aura tous ces petits ronds, ce sera chez nous, ce sera la maison. On pourra y aller, on pourra voyager dans tous ces pays et construire des entreprises avec des indépendants qui veulent faire quelque chose, qui veulent faire bouger les choses. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que si vous considérez votre affaire comme petite, eh bien, elle sera petite. Et si vous la considérez comme grandiose, elle pourra devenir grandiose. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très, très bonne journée.